Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'un gars sans oublier les rues de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le temps, cela peut arriver au prophète, monsieur le président, madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins casser les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, je reçois trois invités pour parler surréalisme. On va parler très précisément du surréalisme et des surréalistes aujourd'hui. Alors Guy, bonjour.
Bonjour.
Sylvia, bonjour.
Bonjour.
Joël, bonjour.
Bonjour.
Alors, je dois votre rencontre à une amie très chère qui nous écoute à Publico en ce moment. Régine, on t'embrasse très fort, parce que sans toi, il n'y aurait pas d'émission en ce moment. Donc, Joël a été présenté à moi par Régine, et Joël est venu avec Sylvia et Guy. Guy, on va commencer tout de suite, le surréalisme.
Qu'est-ce que c'est ?
Oui, s'il te plaît.
Eh bien, c'est un mouvement non pas artistique,
quoique beaucoup de surréalistes s'expriment par des moyens artistiques, donc c'est avant tout un mouvement révolutionnaire qui vise à d'abord à dénoncer la civilisation actuelle, c'est-à-dire la civilisation capitaliste liée aux religions monothéistes, et à imaginer qu'une autre civilisation est possible. Une civilisation qu'on pourrait dire aussi bien, puisque nous sommes ici à Radio Libertaire, une civilisation libertaire, c'est-à-dire une civilisation où la pensée rationnelle ne domine pas le rapport au monde, mais elle cède et elle se développe, non pas en contradiction, mais en alliance avec la pensée poétique. C'est-à-dire une pensée qui ne table pas seulement sur le conscient, mais aussi sur l'inconscient, afin d'arriver à faire en sorte que la contradiction entre le conscient et l'inconscient, le réel et l'imaginaire, le logique et l'illogique, le rêve et la réalité, que toutes ces contradictions s'effacent pour arriver à une nouvelle conception du monde.
Bien. Alors, si je te dis Dada, aux origines, le mouvement Dada, est-ce que tu confirmes?
Alors le.
Aux Première Guerre mondiale.
Je vais te faire une réponse au Normand. Oui et non.
Ah.
Le surréalisme est né de la découverte de l'écriture automatique faite par André Breton et expérimentée par Breton et Soupeau, ce qui a donné le premier livre surréaliste, Les Champs magnétiques, qui est paru en 1920, alors que l'expérimentation était faite en 1919. Mmh. Et en 1919, Breton et ses premiers amis, c'est-à-dire Philippe Soupeau, Aragon, Éluard, étaient tous malheureusement engagés dans la grande boucherie de 14, et ils étaient absolument révoltés par tous ces massacres inutiles. Et les uns et les autres étaient de jeunes poètes qui venaient qui étaient très influencés par le symbolisme, mais qui avaient découvert pendant la guerre de 14, enfin même un petit peu avant pour Breton, la poésie de Rimbaud et les chants de Maldoror de Lautréamont. Donc de là un désir de rompre avec toutes les conventions poétiques et artistiques et d'expérimenter quelque chose d'autre que les modes d'écriture traditionnels, donc de se mettre à l'écoute de l'inconscient, ce qui a amené à la découverte de l'écriture automatique. Bien. Ceci se passe donc vers 19, et dans l'état de révolte où ces jeunes gens étaient, ils entendent parler d'un mouvement de révolte né en Suisse qui s'appelait Dada. Les premiers numéros de la revue Dada ont été confiés à Breton par Guillaume Apollinaire, qui n'était pas encore mort, parce qu'il est mort en novembre 18, juste avant la fin de la guerre. Et il y a eu un rapprochement entre Breton, donc qui ne se disait pas encore surréaliste à l'époque, et Zara, et d'autres éléments dadaïstes comme Francis Picabia, Ribemont Dessaigne. Donc ils ont créé le groupe dadaïste à Paris quand Zara est arrivé à Paris, et de là, pendant 2 ans, il y a eu une grande effervescence de scandales, de provocations diverses, mais toutes ces provocations diverses qui étaient en fait basées sur une négation de tout le terrain poético-artistique qui était reçu par la société de l'époque, et même une négation des avant-gardes précédentes comme le cubisme ou le futurisme, et plus loin encore l'impressionnisme, bien sûr. De cette négation, Breton a eu le sentiment que tout ça tournait en rond, et donc il fallait dépasser cette négation de l'art qu'entretenait Dada. Donc en fait faire un saut dialectique pour, à partir de cette négation, inventer autre chose, inventer quelque chose qui permette vraiment de passer au-delà du simple refus, du simple non, affirmer de nouvelles valeurs. Et le surréalisme, en fait, il est né de ce désir.
D'accord, en 1924.
En 1924. Donc, enfin, ça a mis un certain temps. La fin de Dada, on peut la signifier vers la fin de 1921, 1922. Cette fin de Dada, en fait, amène d'autres jeunes gens dans ce groupe qui n'étaient déjà plus dadaïstes, qui n'étaient pas encore officiellement surréalistes, qui se sont livrés à quelque chose de décisif, tout autant que le fut l'invention de l'écriture automatique. C'était ce qu'on appelait la période des sommeils, quand des gens comme Robert Desnos, Benjamin Perret et René Crevel expérimentaient ce que faisaient les spirites, c'est-à-dire laisser parler librement l'inconscient, mais évidemment sans la croyance à une communication avec les morts. Et ça les amenait dans un état où la pensée poétique s'exprimait vraiment librement. Et Breton a tiré les conséquences à la fois de l'écriture automatique et de ses expériences de sommeil pour lancer le mouvement, écrire le premier manifeste du surréalisme, donc en 1924, et lancer la nouvelle revue qui succédait à une revue qu'il faisait auparavant qui s'appelait Littérature. Cette nouvelle revue sera La Révolution surréaliste, qui durera jusqu'en 1929, et ensuite il y en aura d'autres, et ainsi de suite jusqu'à maintenant, en fait.
D'accord. Alors, dans les membres inspirants, donc tu as cité Apollinaire, il faut dire Freud, Rimbaud.
Oui. Oui, alors donc
Apollinaire.
Oui, donc Apollinaire, c'était le grand poète qui a écrit Alcool. Bon, c'est quand même un des monuments poétiques du XXe siècle. Apollinaire, en fait, c'était une sorte de touche-à-tout de toutes les avant-gardes de l'époque. Il adorait baptiser des mouvements d'avant-garde comme l'orphisme. Il était en contact avec les futuristes, avec les cubistes. Et il était toujours à l'affût de quelque chose de nouveau, en fait, pour mêler l'inspiration poétique à l'expérience quotidienne. Par exemple, dans le poème Lundi, rue Christine, en fait, j'imagine qu'il devait être quelque part dans un bistrot, il écoute des conversations à droite, à gauche, et en même temps, lui, il écoute le flot intérieur de sa propre pensée, et il mêle tout cela. Et bon, ça lance des nouvelles pistes poétiques. Et de là son importance. Et c'est lui qui a inventé le mot surréaliste.
Tout à fait.
Et le mot surréalisme pour donner ainsi un sous-titre à une de ses pièces de théâtre.
Bien. Alors, une œuvre surréaliste, qu'est-ce que c'est ? Je pose vraiment les questions basiques, mais il faut. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le surréalisme, dont ce serait la première émission, qu'est-ce que c'est ?
Alors, il y a une œuvre surréaliste, il y a l'acte surréaliste, le plus simple, qui consiste à descendre dans la rue avec un revolver et tirer au hasard tant qu'on peut dans la foule. Bon, on va dire c'est du terrorisme, je vais me faire arrêter à la sortie du studio. Mais non, cette phrase provocante d'André Breton dans le second manifeste, c'est un défi, c'est un acte de révolte qui est suivi par une seconde phrase qui dit qui n'a jamais eu cette idée, ce désir, en fait, est un imbécile. Parce que, en fait, au début du surréalisme, comme au début de la poésie, il y a un sentiment de révolte. De révolte profonde, à la fois contre la société, mais aussi contre la condition humaine. Pourquoi naît-on et pourquoi naît-on pour vivre, pour devoir mourir un jour? C'est aberrant, finalement. Et pourquoi vivre dans ce monde, supporter toutes les injustices? Donc, au début, il y a la révolte. Et cette révolte, en fait, elle est à la fois nourrie par l'expérience que nous avons tous, enfants, qu'un autre monde est possible dans nos rêves, dans les souvenirs que nous avons dans nos rêves, et dans ce qu'on peut voir de stupéfiant dans l'expérience, dans la réalité, ce qu'on appelle le merveilleux, dans l'expérience aussi de l'amour et dans l'expérience de la liberté.
D'accord.
Donc la conjugaison de la recherche du merveilleux, de l'amour, de la liberté, ça nous amène à vouloir créer des œuvres poétiques, que ce soit par les moyens de l'écriture ou de la peinture ou de la sculpture, qui témoignent d'une réalité, d'une expérience de la réalité beaucoup plus large que ce qu'on voit habituellement. Par exemple, devant cette table, sur cette table, je peux imaginer un immense artichaut de cristal. Et bon, je suis peintre, je peux avoir le désir ensuite de peindre ça et de rajouter un éléphant qui rentre
dans la pièce.
Voilà, parce que je fais confiance à mon imagination pour voir le monde et pour rendre compte du monde.
D'accord.
Et l'œuvre suranniste, c'est ça. C'est fondé sur une conception de l'image poétique qui ne veut pas voir de limites dans notre rapport au réel habituel. Donc on est prêt à accueillir tout ce qui peut arriver sur le plan métaphorique ou sur le plan imaginaire qui puisse nous bouleverser et nous faire voir le monde avec des yeux neufs.
D'accord. Joël, je vais commencer par toi.
Oui.
Quel est ton parcours qui t'a amené à devenir surréaliste aujourd'hui ?
Oh, ça remonte à loin, ça remonte en fait à mon adolescence. Comme beaucoup de jeunes gens, j'ai été passionné par la lecture des textes de Breton et d'autres surréalistes qui venaient juste de paraître en livre de poche à ce moment-là. Parce que je suis donc d'une génération qui a connu mai 68, j'avais 15 ans en 68. Mm-hmm. Et donc c'est un peu avant d'ailleurs que au lycée circulait un peu presque pas clandestinement mais pas loin.
Ah, hein,
c'était parce qu'à l'époque on ne faisait pas de cours sur le surréalisme dans les lycées parisiens ou français, et donc les textes Dada, les textes surréalistes qu'on trouvait, on se les repassait et ça nous passionnait au point qu'on s'adonnait spontanément à l'écriture automatique, souvent d'ailleurs où on lisait, je me souviens d'avoir lu Les Chants de Maldoror en cours de mathématiques derrière mon classeur, et donc c'était ce genre de choses qui à l'époque avait encore un réel potentiel subversif. Alors ça en a un toujours, mais aujourd'hui il y a eu une sorte de banalisation du surréalisme dans la culture, dans les médias. Alors bon, ensuite j'ai rencontré, il se trouve que j'ai rencontré des gens qui se mais plus tard en 80, j'ai rencontré des gens qui continuaient à se réclamer du surréalisme et qui formaient des sortes de groupes informels qui avec des activités diverses, notamment de revues. Et j'ai poursuivi cette activité surréaliste avec les uns et les autres. Mmh. Et finalement, j'ai rencontré il y a eu une sorte d'en, voilà. En 69, 3 ans après la mort de Breton, le groupe surréaliste de Paris a été officiellement dissous.
Tout à fait.
Par l'un de ses, par quelques-uns de ses membres. Cette dissolution est parue dans la presse. Et des gens comme moi qui étions jeunes et qui n'avions pas, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de communication comme aujourd'hui, eh bien, on a pensé que le groupe surréaliste avait disparu, du moins en France.
Mmh.
Et donc, on se retrouve un peu seul.
Orphelin.
Voilà. Orphelin, pas vraiment, mais enfin bon, disons qu'on était, isolé. Moi, j'étais intéressé également par les situationnistes. Mmh. Donc, c'était pour moi très proche. Et effectivement, je pense que, il y a eu des liens réels entre situationnistes et surréalistes. On pourrait revenir là-dessus. Cette activité semblait avoir disparu, et je m'aperçois quelques années plus tard, justement vers 1980, qu'en fait une activité s'est maintenue, une partie du groupe a décidé de continuer et pas les moindres. Il y avait notamment le peintre Camacho, des gens comme Joyce Mansour, qui était une grande poétesse d'origine égyptienne, qui était très proche de Breton et qui a maintenu donc cette activité de groupe avec un certain nombre d'autres surréalistes auxquels se sont agrégés des gens plus jeunes. Bon. Il y avait ce groupe, il y avait aussi d'autres éléments informels qui se réclamaient du surréalisme. Et il se trouve que j'ai rencontré les gens du groupe eux-mêmes en 95, notamment lors des grandes grèves de 95, et nous avons j'ai participé avec eux à la rédaction d'un tract, Tarif de nuit, qui a eu un certain retentissement à l'époque. Et voilà, et à partir de ce moment-là, j'ai participé de façon de plus en plus importante aux activités du groupe de Paris.
D'accord.
Alors, groupe de Paris qui est en lien avec un grand nombre de groupes ou d'individus à l'étranger, hein, dans de nombreux pays. Hein. Il y a une activité internationale surréaliste qui se maintient et qui même a repris dans certains endroits, par exemple au Canada. Il s'est formé un groupe à Ottawa il y a une dizaine d'années à partir de gens très jeunes. Il y a un groupe à Atlanta aussi aux États-Unis. Mm-hmm. On a actuellement, on est en lien avec étroit avec un petit groupe, un groupe surréaliste à São Paulo au Brésil, qui a une maison d'édition. On est très proche du groupe de Madrid, qui a été fondé en 91, et par des gens qui déjà se réclamaient du surréalisme quelques années auparavant. Et donc, ce groupe de Madrid a une grande activité. Ils ont une maison d'édition, ils ont une revue importante qui s'appelle Salamandra, etc. Donc, je pourrais reparler aussi du groupe de Prague, qui est un groupe à l'histoire très curieuse. Il a été fondé en 1934 par Karel Taig et Vítězslav Nezval et d'autres. Et arrive la guerre, l'occupation nazie, les surréalistes rentrent dans la clandestinité, survivent pendant les années d'occupation, ressortent de la clandestinité avec la libération, mais très vite doivent y replonger avec l'étouffoir stalinien.
Tout à fait.
Et ensuite, de nouveau, ils réémergent en 1968 avec le Printemps de Prague. Mmh. Ils publient à ce moment-là un premier numéro d'une revue qui s'appelle Analogone. Et le rideau de fer, enfin la normalisation s'impose. Et là, il faudra attendre la révolution de velours pour que le deuxième numéro de la revue paraisse. Mais aujourd'hui, cette revue qui publie 3 numéros par an en est à son 101e numéro.
Ah.
Donc l'activité surréaliste en Tchécoslovaquie, alors c'était d'abord en Tchécoslovaquie quand le pays n'était pas séparé. Mm-hmm. Ensuite, ils ont maintenu, d'ailleurs, ils ont refusé la séparation, ils ont maintenu mais ça s'appelle maintenant groupe surréaliste tchèque et slovaque.
D'accord.
Voilà. Donc c'est une activité internationale qui est très riche. On a aussi des contacts avec nos amis suédois, gallois, au Pays de Galles, en Angleterre et dans d'autres pays comme le Mexique, les États-Unis, comme je l'ai dit, le Chili,
d'accord, etc. Bien. Alors, Joël, avant de passer la parole à Sylvia, nous allons faire une pause et nous allons lui demander son parcours à elle aussi.
Bye.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne, et sur le net pour le reste du monde, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission Le surréalisme et les surréalistes aujourd'hui. Et je passe la parole à Sylvia, qui va nous parler de son parcours, qui fait d'elle une surréaliste aujourd'hui. Sylvia.
Merci. Mon parcours est beaucoup moins précoce que celui de Joël, en chemin vers le surréalisme. Beaucoup moins précoce, beaucoup moins informé aussi, dans le sens que j'ai lu le texte surréaliste, les premiers textes que j'ai lus, c'était en tant qu'adulte. Je dirais il y a une vingtaine d'années. Et j'ai lu des textes fondamentaux comme Nadja, comme le Manifeste, à cette époque-là. Bien que il faut peut-être dire que je viens d'un autre contexte, peut-être ça s'entend par mon accent, d'un autre contexte culturel, un autre horizon historique aussi, je suis un peu plus jeune. C'est-à-dire, j'ai grandi en Pologne. Mm-hmm. J'ai quitté ce pays en tant qu'adolescente et j'ai migré en Amérique du Nord où j'étais plongée dans la survie d'une certaine façon parce que j'étais seule et donc je suis arrivée je me suis accrochée au milieu universitaire et c'est par ce biais-là que j'ai arrivé comme j'ai dit, il y a vingtaine d'années, je rencontrais les textes surréalistes véritablement dans mon temps libre en tant qu'étudiante doctorante.
Alors, et ça a eu un impact tout de suite sur toi ?
Non, je voulais dire aussi une autre chose. Avant même ça, en Pologne, j'étais dans une école, dans un lycée, comme Joël a parlé de son jeune âge, dans un lycée très, très libéral, expérimental, dont le patron était Witold Gombrowicz.
Witold Gombrowicz, le grand écrivain.
Oui, le grand écrivain. Donc, l'atmosphère était plutôt loufoque. C'était vraiment bricolé comme expérience, comme lycée, mais dans cette liberté. On nous a appris certaines choses, voilà, sur les mouvements. Surtout, on appuyait vraiment, mon professeur de polonais appuyait vraiment sur les mouvements d'avant-garde dans lesquels il plaçait le surréalisme. Et c'est là où les premières images surréalistes, premières peintures, j'ai rencontré dans ce contexte-là. Après, l'impact des textes que j'ai lus bien plus tard. Je dirais pas que c'était un impact immédiat, c'était plutôt sur le long terme, c'était un parcours souterrain dans mon inconscient qui m'a amené aussi par moi, ma francophilie vers la France et donc vers une rencontre qui était un hasard absolument incroyable, une rencontre de quelqu'un qui m'a présenté aux anciens surréalistes, notamment Michel Zimbacca, à un moment Annie Lebrun, et aussi François-René Simon, qui était dans le groupe de Breton, le plus jeune membre. Donc j'ai rencontré ces gens-là vers 2010, bien avant d'avoir connu Joël et Guy, et avoir rentré dans le groupe de Paris, que j'ai fait d'ailleurs... prudemment, je rencontrais Joël et c'était pas tout de suite que je me suis intéressée vraiment vivement. Il y avait surtout le blocage de linguistique. Pour moi, c'était une
un problème
assez considérable pour quand on a accès au texte. Et donc, au fur et à mesure de mes lectures de plus en plus poussées et d'éducation de mon regard, je me suis mis à participer dans les activités du groupe de Paris et découvrir vraiment la richesse qui offre les archives, disons, de surréalisme et de me voir comme dans le prolongement de cette pensée. À la fois révolutionnaire et utopique. Mon travail, surtout à cette époque, travail universitaire, porté sur l'utopie, dont je parlerai plus tard.
D'accord. Alors, tu dis prolongement. Tu as le sentiment d'être l'héritière de tous ces gens-là ?
Non, pas héritière, pas du tout héritière, plutôt... Bon, moi, j'appelle ça le survivance avec deux R, peut-être pour démarquer de la survie, de survie, mais dans le sens positif, c'est-à-dire survivre, c'est d'une certaine façon pas triompher. Non, je veux pas tomber dans l'autre extrême. Mm-hmm. Mais dans le sens que, bon, il y a bien sûr un moment qui était le moment de la jeunesse dont parlait Guy, d'adolescence dans lequel le surréalisme était né. Et bien plus tard, avec le vieillissement des membres individuels, ce mouvement a mûri et a changé aussi l'accent. Il a mis accent sur, plutôt un accent sur l'éthique collective. Et c'est donc ces gens-là ont décédé, même si leurs textes vivent. C'est ce sang qui est le sang de l'écriture et des images qui est passé dans mon sang. Je me retrouve dedans, je me suis reconnue dans le surréalisme et donc je me suis reconnue pas comme héritière mais comme quelqu'un qui survit,
qui est dans le prolongement.
Qui est dans le prolongement, oui.
D'accord. Alors Guy, et toi ton parcours ? Parce que tu nous as bien défini en première partie tout ce qui est le contexte surréaliste, mais comment tu es tombé dans ce contexte ?
Pendant mes années de lycée, donc... J'étais en terminale en 76-77 dans un lycée à Cherbourg, mm-hmm. où je m'ennuyais beaucoup. Je commençais à écrire des poèmes, mais comme j'étais vraiment désolé par l'enseignement du français, généralement de beaucoup d'autres cours aussi.
Ah oui, ça j'imagine.
Oui, j'avais un rapport à la poésie tout à fait naïf et très méfiant. Bon, la façon dont on enseignait Baudelaire, ça a failli me dégoûter de Baudelaire. Je préférais écouter les Rolling Stones. Des choses comme ça. Et donc, les premiers poèmes que j'ai écrits, c'était des poèmes d'adolescents, de révolte, de cafards, voilà. Et j'ai eu la bonne fortune d'abord de tomber sur les poèmes de Jacques Prévert, qui d'ailleurs vivait ses dernières années à 5 kilomètres du village où j'habitais. Mon grand regret, c'est d'avoir été trop timide de ne pas être allé le voir à l'époque. Mais bon, me renseignant sur sa vie, je vois que ce monsieur Prévert fait partie du groupe surréaliste.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est que le groupe surréaliste ? Donc, je tombe assez vite sur un livre de Breton, à cause du titre « L'amour fou ».
Ah.
Je lis ce livre, j'y comprends pas grand-chose, mais je me dis, c'est très important. Et puis, après, j'ai lu les manifestes, les autres livres de Breton. Je m'aperçois que les surréalistes aussi s'intéressaient à la peinture. Donc, je découvre la peinture de Dali, de Max Ernst. Je me dis, ben, voilà, je veux continuer là-dedans. Et donc, j'expérimente l'écriture automatique. Je fais mes premiers gribouillages, mes premiers collages. Et en même temps, je tombe sur le livre de Maurice Nadeau, L'histoire du surréalisme. Qui m'enseigne que le surréalisme est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, très naïvement, je me disais, pas possible, il faut continuer, il faut réinventer ça. Avec deux ou trois amis du lycée, on en parle. Ensuite, je vais faire des études universitaires à Caen. Un peu de lettres, de fac de lettres, c'était aussi très, très embêtant. Et puis les beaux-arts. Et le hasard fait que je trouve l'adresse d'une revue de poésie parisienne qui se promenait dans les eaux surréalistes, sans se dire surréaliste, et aussi avec un anarchisme très prononcé.
Donc le mot est lancé.
Oui,
l'anarchisme.
Ça m'allait tout à fait, oui, parce que j'ai oublié de dire que pour moi, ma révolte d'adolescente elle s'est cristallisée sur deux choses. J'avais un père très autoritaire, donc, et chrétien, donc refus du christianisme, athéisme déclaré. Et je voyais que la société ne tournait pas rond. Il y avait encore, même si j'ai pas connu mai 68, il y avait encore des débris de mai 68 qui volaient dans mon petit lycée à Cherbourg. Et donc Cherbourg, c'est dans l'Ague, dans l'Ague, à 5 km de mon village natal. Il y a cette grande usine de l'Ague où travaillaient mes parents. Et il y avait aussi la centrale nucléaire de Flamanville qui était en construction, là, à 500 mètres de ma maison natale. J'étais vraiment furieux de voir ce genre de choses, de voir qu'on allait détruire les falaises où, gamin, j'adorais aller jouer, et où, de falaises sur lesquelles vivait, d'après la légende, un dragon. Et donc l'imaginaire était là. J'adore peindre des dragons. Et voilà, donc j'arrive à Paris, venant de Caen, je rentre en contact avec ces poètes anarcho-surréalistes parisiens. Je publie dans la revue. Je suis mis en contact avec deux autres petites revues comme ça d'un esprit surréaliste, mais sans le dire. C'est parce que ces gens-là avaient été proches de Jean Schuster, le fossoyeur du surréalisme. Et donc il y a des amis anglais, arabes. Enfin, il y a tout un milieu vivant où j'ai croisé d'ailleurs Joël.
Oui.
Et au bout d'un moment, c'est-à-dire à la fin des années 80, ça ne me satisfaisait pas. Quand même, parce que je disais que ça n'allait pas assez loin et que plein d'ambitions surréalistes n'étaient pas remises en jeu. Par exemple, l'approfondissement de l'inconscient, des faits de hasard objectifs, le rapport à la psychanalyse, enfin tout ça, on n'en parlait pas. Et j'apprends que le groupe surréaliste, donc ceux qui en 69 avaient décidé de continuer l'aventure.
De continuer l'aventure, oui.
Oui, s'était rajeuni grâce à l'arrivée d'une demi-douzaine de jeunes gens, plus jeunes que moi. Moi j'avais 30 ans et eux avaient 20 ans. Donc je les rencontre, accord immédiat, et donc je décide de rentrer dans le groupe de Paris du mouvement surréaliste. Donc c'était en 1990.
D'accord. Alors, Joël, tu vas nous présenter la revue du groupe de Paris.
Oui.
Alors, tu vas peut-être lire les fondamentaux à l'intérieur.
Alors, je vais d'abord dire le titre. Le nom de cette revue, c'est Al-Sheringa. Alors, c'est un nom qui provient de la langue aranda des aborigènes d'Australie et qui signifie, dans leur langue, le temps du rêve. Le temps du rêve, c'est-à-dire l'ensemble des mythes qui sont fondateurs de la société aranda. Et ce temps du rêve a été on a été mis en valeur par André Breton dans un article qu'il avait écrit main première qu'il avait publié en 62 sur justement l'art des aborigènes d'Australie qui était à l'époque encore peu connu voire méprisé
comme tout ce qui est art premier.
Oui, c'est des arts premiers. Les surréalistes ont toujours été extrêmement sensibles et intéressés par ces arts premiers, qu'on appelait à l'époque les arts primitifs, et qui eux ont toujours préféré appeler des arts sauvages, avec le mot sauvage ayant une valeur positive pour un surréaliste, parce que sauvage s'oppose à civilisé, et civilisé, c'est pas tout à fait ce qui nous intéresse, la civilisation. On veut un certain dépassement de la civilisation, comme pour Charles Fourier. Cette revue, Al-Sheringa, c'est l'une des revues du groupe surréaliste de Paris, la dernière en date. On est en train de faire le cinquième numéro. Donc quatre numéros sont parus depuis 2019. Le cinquième va paraître en juin. C'est une revue dans laquelle on trouve à la fois des textes poétiques, des récits de rêves, toujours fidèle à la grande tradition du récit de rêve qui avait été inaugurée dans la Révolution surréaliste. On trouve également des textes historiques. Par exemple, dans le prochain numéro, on trouvera un texte sur les surréalistes slovaques, écrit par une jeune femme qui fait partie de notre groupe et qui est originaire de Slovaquie. Nous, donc des textes historiques, des textes théoriques et critiques aussi, et des notes de lecture sur des livres qui nous, ou des films ou des expositions qui nous ont particulièrement intéressés. Donc c'est une revue qui est assez épaisse. Maintenant, on en est à 140 pages, et qu'on essaye, tant bien que mal, de faire paraître tous les ans.
Mmh. Alors, ah, bon. Elle est disponible à Publico, les anciens numéros aussi.
Oui.
Alors, Publico, 145 rue Amelot, 3 métros, République, Oberkampf et Filles du Calvaire, pour mémoire.
Merci. Alors, elle est disponible, oui, à Publico. Alors, cette revue, et avant cette revue, il y a eu d'autres revues. Hein. On connaît les revues les plus célèbres, la Révolution surréaliste, le surréalisme au service de la Révolution, le surréalisme même, Médium, j'en passe, hein, et l'Archibras, également, La Brèche, l'Archibras. Et après 69, Bulletin de liaison surréalisme, une autre revue qui s'appelle Sur, qui a eu 5 numéros et à laquelle nous avons participé, Guy et moi, dans les années 2000. Enfin, ça commençait d'ailleurs avant les années 2000, en 1996, c'est terminé en 2005. Et puis, il y a des moments où aucune revue ne paraît, mais où paraissent des plaquettes, des collectives, hein, nous pratiquons toujours et régulièrement des activités collectives, par exemple des poèmes collectifs, des récits, on a même écrit une pièce de théâtre collective, hein, Les Fondements de la Mécanique Céleste.
Seulement le premier acte.
Et des cadavres exquis également, dessinés aussi. Alors donc une activité qui se maintient, qui s'est même amplifié ces dernières années. Et aussi, nous publions individuellement des livres également.
Hein, d'accord. Et des articles. Alors, notamment ton article dans le numéro 49 de Réfraction, aux confins de l'anarchisme. Parce que toi, tu fais la jonction avec l'anarchisme,
oui.
Comme Guy.
Oui, comme Sylvia d'ailleurs. Mais
oui, oui. Plus dans l'utopie pour Sylvia. Elle va nous expliquer ça en troisième partie. Aux confins de l'anarchisme, quel était le propos de ton article pour les auditeurs qui
le
voudraient
le... Le propos de mon article, c'était que il existe une idée fausse qui a été souvent entretenue par les historiens, c'est que le surréalisme serait lié au trotskisme d'une façon et au marxisme d'une façon, disons, assez essentielle. Or, je tenais à dissiper cette illusion. Parce que s'il est vrai qu'il y a eu un rapport entre Breton et Trotsky en 1938, hein, lorsque Breton est allé au Mexique en mai 1938, il a rencontré Trotsky, il a été fasciné d'ailleurs par la personnalité de Trotsky. Il est vrai aussi que Benjamin Perret a fait partie de groupes trotskistes au Brésil dans les années au début des années 30, qu'il a ensuite fait partie d'un parti ouvrier internationaliste en 36, mais ce rapport avec le trotskiste, le marxisme, a eu une fin. Et une fin assez rapide. Pour Perret, par exemple, il a été très vite, pendant la guerre d'Espagne, il s'est engagé dans le bataillon Nestor Makhno de la colonne Durruti.
Oui.
Ensuite, après la guerre, eh bien, il s'est dégagé très vite des illusions trotskistes développées par la 4e internationale, hein, est parti, enfin, de ce courant-là. Les surréalistes, en fait, et Breton le rappelle dans plusieurs de ces livres, en fait, ont été d'abord
plus proche de l'anarchie,
plus proche, beaucoup plus proche de l'anarchisme, puisque en fait, dès l'origine, pour Breton, c'est quelque chose de personnel. Hein, dès sa jeunesse, son adolescence, il était proche du mouvement symboliste. Mmh. Le mouvement symboliste, lui était plus jeune hein, que les symbolistes, mais le mouvement symboliste, ce qu'on ignore généralement, comprenait en son sein énormément de poètes et de peintres qui se réclamaient ouvertement de l'anarchisme.
Tout à fait.
Et c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Les gens comme Laurent Taillade, qui est bon, et ou Félix Fénéon, le grand collectionneur et critique d'art, aussi Paul Signac, le peintre Paul Signac, quelqu'un comme Marcel Schwab, des gens comme aussi Mallarmé qui ont témoigné, Mallarmé est venu témoigner au procès des 30 en faveur de des anarchistes accusés. En disant les anarchistes sont des anges de pureté au tribunal, et ça a dû contribuer, parce que Mallarmé était quand même assez connu à l'époque.
Mmh. Ça a contribué à ce que la sentence soit moins sévère.
Soit moins sévère. Bon, donc il y avait, j'en mets aussi beaucoup d'autres noms, moins connus aujourd'hui, Jean Lombard, Paul Adam, etc., qui étaient des écrivains, des poètes influencés, enfin pas seulement influencés, mais qui se réclamaient de l'anarchisme. Alors Breton, jeune, est fasciné par deux choses. Enfant, il visite un cimetière avec ses parents, et là, il tombe sur une stèle où est écrit « Ni Dieu, ni Maître ». Et il raconte que ça l'a enthousiasmé, ça l'a frappé. Alors, il savait rien de l'anarchisme, il voit juste ni Dieu ni Maître sur la stèle. Et ensuite, quand il est adolescent, il va à un meeting contre la guerre et contre la loi de 3 ans en 1913, puisque en 1913 on vise à faire une loi de 3 ans pour le service militaire.
Ouais.
C'est la guerre qui se prépare évidemment, et il va à un grand meeting. Sur la butte du Chapeau Rouge, à la limite de Paris et du Pré Saint-Gervais, et il est fasciné par le fait que il voit beaucoup de drapeaux rouges, et surtout au milieu des drapeaux rouges, un envol de drapeaux noirs. Et là, je peux peut-être vous lire ce très beau passage ici. Voilà, le drapeau rouge, tout pur de marque et d'insigne, je retrouverai toujours pour lui l'œil que j'ai pu avoir à 17 ans, quand au cours d'une manifestation populaire, aux approches de l'autre guerre, je l'ai vu se déployer par milliers dans le ciel bas du Pré Saint-Gervais. Et pourtant, je sens que par raison, je n'y puis rien. Je continuerai à frémir plus encore à l'évocation du moment où cette mer flamboyante, par places peu nombreuses et bien circonscrites, s'est trouée de l'envol de drapeaux noirs. Je n'avais pas alors grande conscience politique, et il faut bien dire que je demeure perplexe quand je m'avise de juger ce qui m'en est venu. Mais plus que jamais, les courants de sympathie et d'antipathie me paraissent de force à se soumettre les idées, et je sais que mon cœur a battu, continuera à battre du mouvement même de cette journée. Dans les plus profondes galeries de mon cœur, je retrouverai toujours le va-et-vient de ces innombrables langues de feu, dont quelques-unes s'attardent à lécher une superbe fleur carbonisée. Donc il y a ici cette passion pour l'anarchie. Et il va y revenir, là, il écrit ça dans Arcane 17 en 1944.
On peut la voir dans la collection 10-18, pour ceux qui veulent lire le passage.
Oui. Et ensuite, il revient sur ces questions dans d'autres textes, par exemple dans un texte qui s'appelle La Claire Tour, où il rend un hommage au poème de Laurent Taillade, La Claire Tour, qui est un poème sur, un poème qui s'appelle La Ballade Solness, à propos de cette pièce de Ibsen, Solness le constructeur. Et dans La Claire Tour, Breton rappelle ces vers de Laurent Taillade, et où le surréalisme s'est pour la première fois reconnu, bien avant de se définir à lui-même, et quand il n'était encore qu'association libre entre individus rejetant spontanément et en bloc les contraintes sociales et morales de leur temps, c'est dans le miroir noir de l'anarchisme, au nombre des hauts lieux où nous nous retrouvions en ce lendemain de la guerre de 1914 et dont la puissance de ralliement était à toute épreuve, comptait cette fin de la ballade Solness de Laurent Taillade. Frappe nos cœurs en allées en lambeaux, anarchie, ô porteuse de flambeaux, chasse la nuit, écrase la vermine, et dresse au ciel, fût-ce avec nos tombeaux, la claire tour qui sur les flots domine.
Parfait.
À ce moment, le refus surréaliste est total, absolument inapte à se laisser canaliser sur le plan politique.
Parfait. Voilà. Alors, on va faire une pause sur ces envolées, et on va donner la parole à Sylvia, qui va parler d'utopie et surtout de votre exposition en troisième partie que vous préparez pour l'été.
Ma France à moi, elle parle fort. Elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre. Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes. Parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure. Héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors elle se démène et vend de la merde à des bourges, mais la merde ça ramène à la mère un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non, c'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS, elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Basile Boli est un mythe et Zinedine son synonyme, elle. Il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous ment, car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent, elle sait gérer une entreprise. Elle vit à l'heure américaine, KFC, MTV, Base, Footlocker, McDo et 50 Cent. Elle, c'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs. Elle, c'est des petites femmes qui se débrouille entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle. Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme. Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaît à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit. Elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur. Celle qui vote extrême, celle qui bannit les jeunes, anti-rap sur la FM. Celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes. Celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante. Celle qui regarde l'UNESCO et regrette le temps des choristes. Qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hospice. Non, ma France à moi, c'est pas la leur. Qui fête le Beaujolais, qui prétend s'être fait baisser par l'arrivée des immigrés. Celle qui pue le racisme, mais qui fait semblant d'être ouverte. Cette France hypocrite qui est peut-être sous ma fenêtre. Celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail. Celle qui se gratte les couilles à table en regardant Laurent Gérard. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie de l'émission Le surréalisme et les surréalistes aujourd'hui. Sylvia, tu vas revenir sur la conception de la pensée utopiste et ensuite tu vas nous expliquer l'exposition que vous avez préparée et qui est internationale de cet été.
Oui, on prépare une exposition qui s'appelle Merveilleuse Utopie. Et le choix du thème n'est pas évidemment un hasard. Pour nous, en ce moment, plus d'actualité, c'est l'utopie, c'est l'espoir utopique. Et on a décidé justement d'axer un peu ce qu'on fait cette année sur cette question de comment on peut espérer en ce temps catastrophique encore et quelle manière on peut espérer. On fait l'exposition, je vais parler plus longuement de l'exposition, mais d'abord, comme c'est lié, je voulais dire que nous avons décidé de nous remanifester, c'est-à-dire on a vraiment travaillé énormément pour faire une exposition à la fois historique et des artistes contemporains. On a décidé de se remanifester d'une certaine façon avant peut-être une occultation encore plus profonde que celle à laquelle appelait Breton en 1930 l'occultation du surréalisme. Et c'est en réaction vraiment maintenant à une société de simulacres, de spectacles, à l'image d'ubiquité, oui. L'image
à la prolifération de l'image.
Oui. Omniprésence d'image, l'image qu'on fait cette démarche. Évidemment, l'image, l'ubiquité de l'image n'est pas à confondre avec l'imaginaire, ce qu'on imagine dans nos esprits, qui est non censuré, qui n'est pas soumis encore à un régime de capitaliste. En sens propre, l'imaginaire est quelque chose qu'on revendique toujours dans le cadre justement utopique. Se remanifester, donc, c'est pour insister sur la dimension éthique du surréalisme, sa dimension utopique, et sous sa forme, l'utopie sous sa forme résolument anarchiste. Et peut-être c'est facile, plus facile de comprendre dans quel sens cette utopie anarchiste, si on revient un peu sur l'idée de l'utopie comme quelque chose, utopie moderne, comme quelque chose qui tente à décrire une société idéale, une société de l'avenir, dans le moindre détail. Et c'est par rapport à cette utopie, utopie de Thomas More, qui était un texte écrit, publié en 1516, que c'est par rapport et par rejet, d'une certaine façon, de cette image dans la deuxième partie du livre Utopie de Thomas More que cette utopie anarchiste peut être décrite. C'est une idée qui revient aussi à la dialectique parce que on tente de créer des images utopiques, mais à la fois de ne jamais s'attacher à ces images. Et ce n'est pas seulement l'imaginaire individuel, de fantasme individuel, et on ne veut pas tomber simplement dans un imaginaire individuel, ni de l'autre côté d'imaginer des sociétés rationalisées qui sont liées intrinsèquement dans l'histoire de la pensée utopique, à la cité, à la politique, donc à l'État. Et donc c'est entre ces deux écueils qu'on essaye de naviguer dans cette démarche de l'utopie anarchiste, surréaliste, qu'on essaye de présenter, de manifester dans le cadre de l'exposition. On n'insiste jamais assez, je crois, sur le fait que le surréalisme n'est pas une avant-garde, que c'est un mouvement qui est nourri par le passé, par une certaine nostalgie même des mouvements politiques et utopiques, qui est, c'est aussi un mouvement métapolitique parce que on essaye de voir un au-delà de la politique. Et peut-être c'est bien de rappeler parce que je viens d'évoquer la nostalgie. Je vais dans un moment parler de mythe, donc nostalgie. Pour le mythe, social qui anime le surréalisme, je voudrais dire une phrase de Gustav Landauer pour un peu éclaircir cette question de nostalgie pour ce qui est de mythe, et pourquoi le surréalisme va parler, ou a parlé de nouveaux mythes sociaux. Voilà la citation. « Toute utopie, recelant néanmoins en elle, nous l'avons dit, et de manière très prononcée, le souvenir enthousiaste de toutes les utopies précédentes connues, que l'on se représente ce qui se passe de façon beaucoup plus complexe dans la nature. » Et ça, c'est du Gustav Landauer de la Révolution, le texte de la Révolution. Donc, contrairement aux avant-gardes de son temps, qui visaient l'institution de l'art et de la culture, le surréalisme était une recherche dans le réel psychique et matériel qui visait un avenir, qui donnait une fin à la poésie, comme pratique artistique ou créatif et comme mode de vie. Et donc, le surréalisme était un prolongement du romantisme, dans le sens que c'était un mouvement qui visait un au-delà, comme avait dit nous avait dit Guy. Mais aussi, c'était un mouvement qu'on peut relier au pessimisme culturel révolutionnaire, par le contexte déjà de misère après la Première Guerre mondiale, de misère sensorielle, un monde effondré dans ses valeurs, l'idée de donner un but, un fin à cette poésie quotidienne, cette poésie de vie. Donc, on peut dire que, aussi, suivant Rimbaud, le surréalisme a travaillé à se rendre voyant, et pas seulement contestataire, mais se rendre voyant de l'avenir. Rimbaud a décrit ça comme le but de son propre démarche, et on peut dire que le surréalisme a rendu cette idée plus collective. C'est pas juste un poète voyant choisi, mais c'est cette activité foisonnante qui a pris forme des années 20 suivant, à la fois Rimbaud et à la fois Baudelaire, qui est lui plutôt le patron de ce pessimisme culturel dont je parlais. Je veux aussi dire quelque chose donc sur le mythe, la nostalgie du mythe utopique que le surréalisme, avec lequel le surréalisme a plus de liens. Donc c'est pas l'utopie de Thomas More, mais c'est une utopie plus ancienne celle de Pays de Cocagne. Utopie médiévale, paysanne, c'est un rêve ou un mythe de la société heureuse qui n'est pas une société créée par l'homme, c'est plutôt une société que la nature qui s'est pliée, qui se conformait au désir de l'homme, a donné à l'homme. C'est pas non plus un don de Dieu directement. C'est dans les premiers textes qui évoquent le pays de Cocagne, texte de XIIIe siècle, même si l'idée déjà est bien plus ancienne, mais dans le texte en Europe, le texte français, ce pays de Cocagne est un peu élaboré quand même, mais c'est un pays où l'homme ne travaille pas, où l'homme est complètement dévoué à ses désirs.
Oui.
Et moins de désir. Voilà. Donc, c'est cette exigence de la réalisation des passions, des désirs qui sont enracinés dans le corps, qui devient aussi, d'ailleurs, l'un des principaux apports du mouvement révolutionnaire avorté en 1848, que reprend le surréalisme. Et le surréalisme, et ça, je m'appuie sur le travail de Miguel Abensur. Ça, c'est Miguel Abensur, le philosophe politique connu pour sa connaissance de l'histoire moderne de la pensée utopique et libertaire, a nommé un nouvel esprit utopique, Et il voyait le surréalisme, certaines tendances de surréalisme dans cette sillage ou dans cette courant, voilà, d'un renouvel de la pensée utopique critique. La pensée utopique devient autocritique. Et donc, si on veut, la présence de Fourier est très très importante dans son renouvel, surtout pour le surréaliste, qui pour Fourier, qui évidemment décrit une utopie, imagine une utopie harmonieuse où des passions règnent. C'est une utopie passionnelle. On voit très bien le lien avec le pays de Cocagne.
Et l'utopie.
Et l'utopie, oui.
Ou la
D'accord.
fleur.
Ou la fleur.
Ou la fleur.
La fleur.
Je peux aussi évoquer, par exemple, aussi un peu des antécédents, un précurseur de surréalisme dans cette matière. Il ne faut pas oublier l'utopie socialiste anarchisante de William Morris, sur lequel, encore une fois, Miguel Abensur a écrit. Cette utopie a fait le lien entre les utopies de politique, civique de Thomas More et les utopies bien moins, voire pas du tout explicites, détaillées qu'on associe au surréalisme, à la pensée anarchiste à la fois. Donc c'est une idée d'imagination utopique qui consiste de percer vers une société possible et à la fois très dialectisée, qui exprime un élan, même dans la littérature, dans la fiction, un élan d'imaginaire, de entrevoir quelque chose de cet avenir, mais à la fois est très consciente que on peut pas vraiment imaginer de notre condition, notre mauvaise vie, d'imaginer véritablement une société véritablement utopique, pour universelle, pour tout le monde.
Alors, l'exposition, Sylvia, comment vous l'avez conçue et pour quel but, si je puis me permettre de revenir à l'exposition? Parce que je voudrais que vous ayez le plus de monde possible grâce à cette émission, donc il faut en parler, et il nous reste quelques minutes pour le faire.
Mm-hmm. On a été invité à faire cette exposition internationale dans la tradition des expositions surréalistes, des importantes, des conséquentes expositions surréalistes. On a été invité à faire cette exposition à Saint-Cirq-la-Popie, dans ce qui s'appelle maintenant la Maison d'Andabreton, MAB, après des travaux importants qui étaient terminés l'année dernière, avec très peu de moyens. On fait ça avec très très peu de moyens. Et c'est donc suite à la dernière exposition conséquente vraiment en France, sur le sol français, c'est-à-dire l'écart absolu en 65, qu'on reprend cette idée de vraiment faire une exposition thématique.
D'accord.
Et cette thématique est suite à l'écart absolu, qui est un concept de Fourier, l'utopie est le merveilleux à la fois. Donc c'est principalement la production plastique qu'on montre, la peinture, collage, sculpture, etc. Mais ils sont tous orientés vers l'utopie dans ce sens oblique, non rationalisant par leur contenu, par leur forme.
Alors, concrètement, donc, il va y avoir des peintures, des collages, des sculptures.
Des installations. Magiques.
Ah, magique, ça m'intéresse. Ça, j'aime bien, j'adore. Ça me donne envie d'y aller.
Je ne veux pas dire plus.
D'accord. Donc, et tout ça dans un contexte bien précis que tu nous as défini. Et l'exposition démarre quand exactement?
Le 6 juillet. Et elle démarre, elle dure 2 mois.
Juillet-août?
et septembre.
Et au début de septembre.
7 ouais. septembre.
Le 7 septembre.
Oui.
D'accord. Et les horaires de où on peut la visiter?
Ah, ça, je passe ça dans...
C'est l'après-midi.
L'après-midi.
Oui, je sais que c'est l'après-midi. L'après-midi.
Donc, on va dire...
À partir de 14h.
À partir de 14h.
Oui.
L'adresse exacte?
À Saint-Cyr-la-Popie, maison en Ébreton.
C'est place du Carole.
Je connais l'adresse parce qu'il a écrit.
Oui. Place du Carole à Saint-Cyr-la-Popie. Saint-Cyr-la-Popie est un tout petit village qui comprend l'hiver, je crois, 80 habitants. Mais comme c'est un village très touristique, malheureusement, il est devenu touristique depuis une quarantaine d'années. Il y a en juillet-août beaucoup, beaucoup de gens qui passent là, qui ne s'intéressent pas d'ailleurs tout. Très spécialement au surréalisme. Hein, il passe là parce que le Saint-Cyr-la-Popie a été un jour classé parmi les plus beaux villages de France. Voilà.
Ah,
et
ouais.
En fait, André Breton s'était installé là en 1950 lors de la... il avait inauguré la route des citoyens du monde entre à partir de Cahors avec le mouvement des citoyens du monde et il découvre ce village qui lui apparaît comme une rose impossible dans la nuit, selon ses propres termes. Et il le découvre, et là, il y avait une maison à vendre. Breton n'avait pas du tout d'argent. Hein. Il faut voir que c'était quelqu'un qui vivait vraiment dans une très grande précarité. Mais il avait cette maison coûtait rien à l'époque.
Mm-hmm.
50 000 francs anciens.
Ah oui,
en 50, ça coûtait vraiment très peu. Et donc, Breton avait un peu de sous, pas beaucoup, pouvait l'acheter. Il l'a acheté, mais il y venait uniquement l'été parce qu'il ne pouvait pas avoir de chauffage, il ne pouvait pas payer le chauffage, etc. Bon, c'était une maison qui est restée dans cet état pendant toute la vie de Breton et même après. Bon, il se trouve que la mairie l'a racheté. Et on a fait une sorte de centre culturel sur le surréalisme et a permis un certain nombre d'expositions depuis la rénovation de cette maison.
Et ça vous a été confié. C'est un bel hommage.
Voilà, on nous a
à votre travail.
Voilà. Donc de faire
je suis très fière de l'annoncer dans l'émission et de vous recevoir. J'avais conscience de recevoir des gens importants, mais à ce point-là, waouh. Comme quoi. Ah bah oui, André Breton, c'est
oui,
pour le surréalisme, c'est incontournable.
C'est fondateur.
C'est fondateur. Voilà. Donc tu rappelles donc c'est de l'après-midi.
L'après-midi, du 6 juillet au 7 septembre. À Saint-Cyr-la-Popie, dans la maison André Breton, qui se trouve donc place du Carole. C'est dans le village.
D'accord.
Le village est vraiment petit, hein, c'est facile à trouver.
Bien. Alors, on va rappeler les fondamentaux du groupe de Paris. Donc, la revue.
Oui, la revue Al-Sheringa.
Qu'on peut retrouver à Publico.
Oui.
Donc tous les numéros sont à Publico, j'ai vérifié, avec Régine qui aide les libraires puisqu'elle a, dans le groupe Pierre Bénard, elle officie. Régine, on te remercie, grâce à toi cette émission a eu lieu. Et la revue Réfraction aux confins de l'anarchisme 49, pour lire ton article sur l'anarchie et le surréalisme.
Oui.
Guy, un dernier mot peut-être ?
Oui, nous avons aussi les uns et les autres publié divers livres, soit des recueils de poésie ou des recueils d'essais. Je pense qu'on peut en trouver quelques-uns à Publico.
Tout à fait.
Oui.
Il suffit de les demander au libraire Laurent ou au libraire Christophe. Et ils vous guideront et vous les trouverez sans problème.
Voilà. Et sinon, Joël et moi, on participe à la revue Chronique Noire et Rouge.
Tout à fait.
Trouvable de Publico également.
Oui. Qui coûte 5 euros et oui. qui est là tous les mois. Voilà. Bien. Sylvia, un dernier mot ?
Non, je vous laisse un dernier mot.
Ah bon ?
J'ai déjà dit suffisamment dans un très mauvais français.
Non, Sylvia. Non. Très bon français. Alors, on va remercier Jean-Mi, sans qui il n'y aurait pas de technique et donc pas d'émission. Merci Jean-Mi, merci à Guy, à Sylvia et à Joël. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Monsieur, mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national.
De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de mort. Nous sommes alors des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction germée nausée. Le tiers-monde crève, les porcs en pif, la tension monte, les chiens griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, parqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Et au Chine, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles croupissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des courants. Des singes conduits à la démence, pétanque devient ultra-violence. Système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout fini en règlement de compte, à coups de schlag, le sang inonde.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM, en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir un grand historien, M. Gérard Noiriel. Bonjour.
Bonjour.
Alors, M. Noiriel, nous vous recevons parce que nous avons lu dans l'Humanité une interview de vous sur un tract que vous avez publié chez Gallimard qui a pour titre « Préférence nationale, leçon d'histoire à l'usage des contemporains ». C'est le tract de Gallimard numéro 55 à 3,90 € dans la collection des tracts de Gallimard. Et avant qu'on en vienne à proprement parler de préférence nationale, je voudrais que vous présentiez votre parcours à nos auditeurs. Vous êtes fondateur de la revue Genèse, directeur de l'EHESS, et surtout vous avez travaillé avec un grand monsieur de la radio et de la télévision, M. Marcel Trillard.
Oui, bien écoutez, merci pour votre invitation. Déjà, alors je voudrais juste préciser, je ne suis pas le seul fondateur de la revue Jeunesse, c'est le cofondateur. C'est une équipe, c'était une équipe. Hein. Puis donc, directeur d'études, je ne suis pas directeur de l'école des études, je suis directeur d'études dans cette institution. Voilà, je ne voudrais pas qu'on me reproche après de m'attribuer des titres que je n'ai pas. Mais et ce qui est tout à fait juste, oui, c'est que j'ai connu tout au début de ma carrière, Marcel Trillard, qui est devenu un ami aussi, hein, et je l'ai connu parce que je dis souvent, moi j'ai fait de la radio avant de faire de l'histoire, quasiment. Puisqu'en fait, vous savez, c'était pendant les grandes grèves de la sidérurgie en Lorraine, en 78-79. Moi j'étais prof à l'époque dans un collège de la banlieue de Longwy, au moment où il y a eu le plan de restructuration de la sidérurgie, et c'était, voilà, condamné. Milliers et des milliers de gens au chômage, destruction d'une industrie centenaire, etc. Donc j'ai participé, moi à l'époque j'étais militant de base du Parti communiste. Cette lutte a d'ailleurs amené d'ailleurs à une rupture, puisque ce que j'ai raconté dans mon tout premier livre qui s'appelle « Vivre et lutter à Longwy », qui est un livre militant, j'ai écrit avec un ouvrier, un OS d'origine marocaine, c'est Benasser Azaoui, qui lui a raconté les formes de discrimination qui existaient au sein de la CGT. Mais à l'époque, ce genre de choses ne passait pas au sein du PC. Et donc, voilà. Bon, bref, ça, c'est pas le plus important. Mais la radio Lorraine Cœur d'Acier a été vraiment l'événement majeur dans ce combat, parce que ça a été une lutte vraiment intense. Hein. Toute la population a participé pendant 6 mois, à tel point que le Monde avait parlé de la République populaire de Longwy. Hein. avec des opérations coup de poing. À côté, les gilets jaunes, c'était des petits anges. Hein. C'était très violent. Et moi, tous mes élèves, bah, leurs parents travaillaient à la sidérurgie. Alors, bah, j'ai arrêté mon programme. Et j'ai fait l'histoire de la sidérurgie avec les élèves, avec tout ça. Bon. Et en même temps, donc, après, moi, j'ai fait ma thèse sur l'histoire de cette région. Et j'ai noué des liens avec Marcel Tria, qui m'a demandé d'animer les émissions d'histoire à la radio Lorraine Cœur d'Acier. C'était une expérience très, très intéressante pour moi, très enrichissante, qui m'a d'ailleurs poussé à me dire, mais bon sang, l'histoire de ces ouvriers-là, personne ne l'a jamais faite. C'est à la fois l'histoire de l'immigration, c'était le premier arrondissement de France pour le taux d'immigration, mais aussi une réussite du point de vue de ce qu'on commençait à appeler l'intégration, mais pas le langage technocratique. C'était, les gens le faisaient eux-mêmes, c'est-à-dire le travail, autour du travail. Autour, vous voyez, des valeurs de solidarité, etc. C'est ça qui avait créé cette société. Et je me suis rendu compte que, en vivant sur place, eh bien, les raisons profondes de la puissance de cette lutte, c'était bien sûr la perte d'emploi, mais c'était aussi la perte d'une identité collective qui s'était constituée même. Vous voyez, et c'est ça que j'ai rappelé dans mon livre en montrant l'éclairage historique de toute cette histoire-là. Donc, ça a été vraiment pour moi tout à fait fondateur dans ma carrière par la suite. Dans mon souci aussi. J'ai créé une association, déjà ma première association d'éducation populaire à ce moment-là, qui s'appelait l'APEP, l'Association pour la préservation et l'étude du patrimoine de l'Ouï, parce que les bureaucrates, ils voulaient tout raser. C'était pour eux honteux. Hein, ils voulaient mettre soi-disant des nouvelles technologies. Il n'y a jamais rien eu. Hein. C'est devenu une région de retraités. Mais alors nous, on s'est battus avec les militants locaux pour la lutte pour le crassier, pour conserver le crassier, vous voyez, des lieux symboliques qui marquaient les luttes ouvrières, les enjeux, la souffrance aussi, tout ça. Et puis, voilà, donc ça a été un peu le point de départ pour moi dans ce que j'ai pu faire après, à la fois sur le monde ouvrier d'un côté, sur l'histoire d'immigration de l'autre.
D'accord. Alors, je rappelle que Pas de Quartier avait reçu le 5 octobre 2021 Tristan Thiel, l'auteur de BD de Lorraine Cœur d'Acier, et on avait diffusé le premier épisode de la compilation consacrée à Marcel Tria. Voilà. Vous pouvez le réécouter sur le site du groupe Louise Michel. C'est groupe-louise-michel.org et il faut aller dans la rubrique Pas de quartier et vous cherchez l'émission qui s'appelle Lorraine Cœur d'Acier. C'est 2h12 d'émission et vous avez le premier épisode d'un morceau de Chiffon Rouge de Marcel Tria. Voilà. Bien. Et vous avez aussi l'émission avec Raymond Macherel. On avait parlé aussi de Marcel Tria quelques 15 jours auparavant. Voilà. Donc, Monsieur Noiriel, nous avons constaté avec consternation et indignation que, à part l'humanité, et vous venez de me dire à l'instant La Croix,
un petit article,
peu de gens ont relayé l'information sur Préférence Nationale. Pourquoi, à votre avis ?
Mais je crois que moi, je vois l'évolution hein, depuis un ancien dans le système, et je vois en 30 ans quand même l'évolution des médias. C'est-à-dire, il y a une concentration, et surtout, c'est au jour le jour maintenant. C'est-à-dire, il y a un jour, c'est pour ceci, le lendemain, c'est pour cela, etc. Et en plus, il y a évidemment des raisons politiques, puisque on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera de Marc Bloch, mais moi, je suis fidèle à cet idéal de Marc Bloch, c'est-à-dire, vous savez, moi, une chose qui m'a marqué dans ma vie, qui vient aussi de mes origines sociales, de ce que j'ai pu traverser, ça a été la réflexion, mais de quel droit on va parler à la place des autres ? Donc, moi, les militants le font, et c'est légitime aussi hein, que les militants puissent le faire, sinon il n'y aurait pas de mouvement de lutte. Mais il faut toujours s'interroger aussi sur les porte-paroles. C'est ça aussi pour la démocratie. Et en même temps, moi, je me dis, ben, quand je fais mes recherches historiques, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Je suis là pour expliquer les choses avec mon travail. Donc, c'est ça aussi que j'essaye de faire. Je prends un objet comme celui-ci, sur lequel je travaille depuis 30 ans, hein, Préférence Nationale, et je rappelle un certain nombre de choses, j'explique un certain nombre d'enjeux, et puis après, ben, les gens, ils vont se saisir de ça, et puis ils pourront se décider dans un sens ou dans un autre. Et c'est parce que je crois que la connaissance telle que je la pratique a une vertu émancipatrice. Voilà. Je pense que les gens ont besoin de connaissances, surtout dans un monde où on est abruti constamment avec les nouveaux médias qui sont contrôlés, vous le savez, de plus en plus.
L'oligarchie des milliardaires
Bolloré et autres. Comment voulez-vous que, bon, Donc, il y a des endroits comme vous qui résistez, un certain nombre de gens comme ça, et moi, je le fais dans mon travail. Donc, par rapport à ces questions qui sont hyper politisées, la distance que j'ai introduite, en réfléchissant à l'objet nation, national, en disant nous vivons dans des sociétés qui sont encore nationales, et nous-mêmes nous sommes pris là-dedans, c'est pas simplement les autres. Et il faut comprendre ça pour savoir exactement l'efficacité de la propagande qui est menée par l'extrême droite aujourd'hui. C'est quand même un problème sur lequel il faut s'interroger.
Oui.
On voit le niveau. Moi, quand j'ai commencé, vous savez, ma thèse sur l'immigration, c'était déjà, c'était les débuts de Jean-Marie Le Pen, au début des années 80.
D'accord.
Je me suis dit, Le Pen, il arrive à nous ressortir les vieux trucs pétainistes et autres, parce que nous, historiens, on n'a pas fait notre job. On n'a pas assez travaillé là-dessus. Et maintenant, on ne peut plus dire ça. Il y a des tas de gens qui ont fait des recherches. On sait
qu'en France... Après Paxton.
Oui, voilà. Et puis sur Vichy, mais aussi sur l'immigration. On sait maintenant que la France s'est constituée de multiples immigrations, etc. Enfin bon, donc on ne va pas encore nous ressortir nos ancêtres les Gaulois. On parlera de Zemmour tout à l'heure, donc oui. On y reviendra. Et donc, voilà. Et donc, malgré tout, bon, le Front National, à l'époque de Pen, c'était moins de 10%, et aujourd'hui, on voit qu'ils sont caracolés en tête pour le sondage des prochaines élections européennes. Bon. Donc, voilà. Moi, c'est ça qui, quelque part, je me dis qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a mal fait, etc. Et j'ai fait ce petit track, vous dites, ça coûte 3,95 €, je pense que tout le monde peut se payer ça ou offrir ça pour l'anniversaire de tel ou tel. Je vais rassembler ce qui me paraissait essentiel dans ce débat-là, mais c'est vrai que du coup, c'est pas dans le truc préconstitué dans les médias, donc les gens m'invitent pas.
Oui. Revenons à Marc Bloch et l'étrange défaite, parce que après avoir lu Préférence nationale, avoir fait le plan avec mes compagnons de Groupe Michel, j'ai tenu à relire l'étrange défaite de Marc Bloch. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce livre pour inciter les auditeurs à le lire après avoir lu votre tract?
Ben, si vous voulez, c'est déjà dans le titre, étrange défaite. Il y a le mot étrange là-dedans. Oui. C'est-à-dire, c'est une défaite à laquelle personne s'attendait quelque part. Mm-hmm. Hein? Et donc, moi, je dissocie quand même dans l'œuvre de Marc Bloch les deux livres qu'il écrit pendant la Résistance, parce que ça, c'est un livre écrit pendant la Résistance, quelques mois avant qu'il soit fusillé par la Gestapo.
Oui.
Donc, il faut quand même tenir. Et il écrit en même temps Apologie pour l'histoire. Et je dis, il ne faut pas confondre les deux. Dans le premier, c'est son œuvre de savant qui défend. Il dit l'histoire scientifique telle que je la conçois, voilà, elle est autonome, elle ne dépend pas des pouvoirs, elle a une dimension critique, elle essaye de s'adresser à tout le monde, voilà. Et vous savez, Marc Bloch, un truc que je reprends souvent, il disait attention, l'historien, il ne doit pas avoir la manie du jugement. Nous, on n'est pas là pour juger. Hein. Ça, c'est la mémoire. Il faut des gens qui jugent le passé. Mais nous, on est là pour expliquer. Moi, je suis pris constamment dans des polémiques mémorielles dès que j'essaye de prendre un peu de recul. Parce que quelle a été mon expérience militante? Moi, j'ai été militant du PC pendant un certain nombre d'années, je vous l'ai dit, et ça s'est mal terminé, mais parce que ce qu'on voyait, de façon, pour tous les gens qui avaient un peu de recul, c'est ce qui allait se passer. C'est l'effondrement de ce parti qui était déconnecté par rapport aux réalités nouvelles, etc. Nous, on essayait de le dire, mais ça passait pas. Donc, moi, je me suis dit, maintenant, moi, mon rôle... c'est justement de maintenir cette espèce de courage, de se tenir à distance, même parfois à distance des causes que je défends. Moi, je suis militant antiraciste, puis je suis étudiant, et il m'est arrivé, notamment dans mon livre avec Stéphane Bourg, faire une analyse critique de l'antiracisme peut-être qui fonctionne aujourd'hui. Parce que j'estime que c'est pour aider, c'est ça qui va aider les militants. C'est pas qu'on dise comme eux, ils n'en ont pas besoin de nous. Ils font ils militent, etc. Mais nous, ce qu'on peut apporter de spécifique, en prenant une distance par rapport aux enjeux, et moi-même, je suis à cheval sur les deux. Quand je suis militant, je suis militant. Mais quand je suis chercheur, je prends un recul par rapport à ma posture de militant. Ce n'est pas un exercice facile. Je ne dis pas que je le réussis à chaque fois. Mais c'est quand même l'idéal vers lequel je tends et qui me vient de Marc Bloch. Et donc, dans le livre dont on parlait, L'étrange défaite, c'est une analyse du citoyen engagé qu'il était. Avec aussi se disant, est-ce que j'en ai fait assez? Quelque part, est-ce que moi-même, je n'ai pas une responsabilité? On aurait peut-être pu crier plus fort quand on voyait monter cette extrême droite-là. Dans les années 30 et tout.
Voilà.
Et donc, il y a cette réflexion-là, qui est aussi de dire à la fois maintenir une autonomie, parce que ça nous permet de voir des choses que peut-être ceux qui sont engagés dans le champ politique ne verront pas, mais en même temps, ne pas se taire. Voilà. C'est cette double leçon que j'ai retenue de Marc Bloch et que j'essaye d'appliquer dans le monde aujourd'hui, en soulignant quand même le fait que nous ne sommes pas dans la même situation qu'il était dans les années 30. Moi, je n'aime pas trop non plus quand on dramatise, quand on va... Vous voyez, aujourd'hui, on est dans une situation qui est problématique parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. C'est surtout ça. Mais actuellement, on n'est pas entouré par tous des pays qui nous font de la guerre, qui font la guerre, il n'y a pas de risque, même si Poutine et ce qui se passe en Ukraine va nous interroger. Mais voilà, il faut aussi essayer de caractériser le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je pense que c'est inquiétant, notamment parce qu'on voit que ça ne concerne pas que la France. Un peu partout, on voit la montée des forces conservatrices aujourd'hui. Et moi, je l'attribuerais à, c'est ce qui reste de mon marxisme, aux infrastructures, notion d'infrastructure communicationnelle, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les chaînes d'info continues. Je pense qu'elles créent comme ça ce matériau qui nourrit constamment le discours sécuritaire, le discours de rejet de l'autre, de l'étranger, etc. Et que ça fait le jeu des forces
extrêmement. Ouais. Voilà. Alors, on va aller dans le vif du sujet, Monsieur Noiriel. Je vais lire l'introduction de votre tract. La loi Asile et Immigration, votée le 19 décembre 2023, a placé au centre du débat politique une nouvelle polémique sur la préférence nationale. En France, le problème de l'immigration s'est imposé dès les débuts de la Troisième République. Et il a ressurgi à chaque fois que notre société a été en crise. L'histoire montre que la fuite en avant dans une politique de plus en plus répressive à l'égard des migrants, menée au nom de la préférence nationale, met en péril non seulement les valeurs humanistes de notre République, mais aussi les principes démocratiques de l'État de droit. En 1940, l'effondrement de la Troisième République fut l'ultime conséquence de cette dérive nationaliste et sécuritaire. Waouh ! Quand on lit ça, tout est dit. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va... On s'accroche. Et le tract, vraiment, on s'est accroché et on l'a lu de bout en bout. Et on a appris déjà que la préférence nationale, c'est une idée rance de la Troisième République, les débuts de la République.
Voilà. Alors, je ne mettrai pas le mot rance, vous voyez, parce que c'est un jugement de valeur.
Mais je donne ce jugement
vous,
de valeur.
Vous, moi, voilà, mais je ne le reprendrai pas à mon compte.
D'accord.
Parce que je crois que c'est un fait objectif. On peut le déplorer, le critiquer, mais ce qui s'est passé historiquement, c'est que nos sociétés se sont constituées sur une base nationale. Pas rien que la France, d'ailleurs. C'est le triomphe des États-nations, c'est-à-dire fondé sur le principe de la souveraineté nationale. Ça, c'est un acquis fondamental de la Troisième République. J'ai longuement montré dans mes travaux antérieurs, si vous voulez, par exemple, je vais prendre juste un exemple. Avant la Troisième République, ce qui était la coupure fondamentale, elle était entre les classes laborieuses et les notables. C'était une coupure sociale. À tel point que, par exemple, les passeports, eh bien, si vous vouliez vous déplacer à l'intérieur de la France, d'aller d'un département à l'autre, il fallait demander un passeport. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la Troisième République? Eh bien, la citoyenneté, ça veut dire qu'on peut se déplacer librement sur son territoire, mais on renforce les barrières aux frontières. C'est donc à partir de ce moment-là que le clivage fondamental, ça a été français-étranger. Et c'est cette notion-là sur laquelle on vit encore aujourd'hui. Et je dirais que, et c'est ça que peut-être certains n'apprécient pas, mais nous-mêmes, quand on est français, on en a l'avantage que cette nationalité, cette protection nationale, elle a contribué à accroître les inégalités dans le monde entre les pays les plus développés et les pays les plus pauvres. Donc je veux dire, c'est un problème compliqué, hein, surtout pour quelqu'un qui, comme moi, fonctionnaire, donc fonctionnaire de l'État, c'est toutes ces notions-là. Vous voyez, j'essaye toujours de aussi de faire porter le fer, je dirais,